J'ai parlé déjà des deux premières vérités il y a quelques jours. Et évidemment, la vision du bouddhisme n'est pas complète si on s'arrêtait aux deux premières vérités. Donc ce soir, j'aimerais parler de la troisième pour essayer de donner un petit peu l'orientation la plus profonde de notre pratique, pour bien montrer aussi la dimension parfaitement spirituel, si vous voulez, de la pratique de la méditation, parce que si évidemment on parle des émotions, une manière de se situer par rapport aux émotions pourrait réduire la pratique de la méditation bouddhique à une sorte de thérapie sophistiquée, ce qu'elle n'est pas. Donc bien au-delà, elle ouvre sur quelque chose d'autre, qui est justement la troisième vérité, la vérité de la cessation. Donc j'aimerais parler un petit peu de ceci, c'est un sujet assez subtil, donc essayer de le rendre accessible pour nous et aussi que ceci ait du sens pour notre pratique, même si ça donne l'orientation, le contexte d'une manière générale, mais quand même que ça éclaire notre pratique. Donc cette vérité de la cessation est assez complexe, et quand je dis qu'elle est assez complexe, eh bien, dans la tradition bouddhique, on a beaucoup débattu quant au sens très précis à donner à cette cessation. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une réponse toute simple, toute faite, mais il y a eu des différentes visions dans la tradition bouddhique dès après la mort du Bouddha, donc certaines orientations données. Naturellement, parce que c'est un sujet qui est assez subtil. Donc quelquefois, on a donné l'exemple de l'extinction ou la cessation, comme l'extinction d'une bougie, par exemple la flamme d'une bougie. Et alors la grande question, c'est alors est-ce qu'il ne reste plus rien? Et là, on a souvent attaqué le bouddhisme de nihilisme en disant, ben voilà, le but ultime, finalement, c'est une sorte de néant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc cessation de quoi qui est synonyme de nirvana, si vous voulez, c'est ce que veut dire cette troisième vérité, donc la vérité de la cessation qui est le nirvana. Donc qu'est-ce qui cesse à ce moment-là lorsqu'on atteint cette vérité de la cessation? Donc dans un sutra, ceci est exprimé assez clairement. Un moine vient demander au Bouddha, il pose une question très, très directe, on peut dire. Il lui dit, lorsqu'on est perdu dans le lac des lamentations, des difficultés, des souffrances, de la confusion, dites-moi, vénérable, où est le refuge? Où est l'île? Et ici, il faut comprendre que dans la tradition bouddhique, le refuge et l'île veut justement dire la libération, le nirvana. Donc la question est simple, lorsqu'on est pris dans la confusion, les difficultés, la souffrance, où se trouve la libération? Et le Bouddha répond de manière très simple, et d'ailleurs très succincte, il dit ne rien avoir, ne rien saisir. Ceci est la libération, ceci est l'île, ceci est le refuge, ceci est la libération. Donc ne rien avoir, ne rien saisir. On peut se rendre compte que toute notre pratique tourne autour du non-saisir. Je l'ai déjà mentionné à de nombreuses reprises. Si on voulait résumer ce qu'on met en jeu dans la pratique et pourquoi nous pratiquons de la manière dont nous pratiquons, afin de ne pas saisir. Et là, on trouverait des citations à la fois dans le bouddhisme Theravada et dans le bouddhisme Mahayana, plus tardif, on trouverait exactement les mêmes formulations. Tout le monde est d'accord. Pourquoi médite-t-on? Afin de ne pas saisir. Maintenant, on peut mettre en jeu ce non-saisir de diverses manières. Quelquefois, on met des rituels, d'autres choses, mais sans perdre de vue que tout mène au non-saisir. Il est évident qu'on se rend compte que dans ce chemin du non-saisir, nous rencontrons beaucoup d'habitudes, et c'est pour ceci, à ce moment-là, qu'on peut imaginer qu'il y a différentes stratégies qui essayent d'affaiblir ces habitudes. Mais non pas parce que le non-saisir serait de nature différente dans les différentes traditions. Donc ici, dans ce sutra, c'est exprimé clairement ne rien avoir, ne rien saisir. On peut se demander comment on fait ce non-saisir. Il est un autre sutra qui est traduit en français sous le dernier voyage du Bouddha, ce qui est un très beau sutra. Et dans ce sutra-là, il y a un passage où le Bouddha annonce sa mort, dans le fond, Ananda, Ananda qui est son fidèle serviteur. Et le Bouddha parle trois fois en disant que pour un être qui a atteint l'éveil comme lui, il est possible de retarder sa mort pendant une période. Il nomme ces périodes assez grandes dans la tradition indienne. Il dit ceci trois fois et Ananda ne réagit pas. Comme si, ah bon, c'est intéressant, sans faire le lien que le Bouddha est quand même assez âgé, qu'il est malade d'ailleurs. Et Ananda ne fait pas du tout le lien, ne réagit pas. Lorsqu'il réalise que le Bouddha vient de parler de sa mort, Ananda retourne vers le Bouddha et puis lui dit, non, non, il faut rester, il faut à tout prix prolonger votre vie ce laps de temps des possibilités. Et le Bouddha dit, c'est trop tard maintenant. Donc il annonce sa mort prochaine à Ananda. Ananda est complètement, évidemment, attristé, effondré. Il va dans une clairière où il pleure abondamment. Il est extrêmement triste. Et à nos jours, un des principaux disciples du Bouddha s'approche de lui et lui dit, c'est pas le moment de pleurer. Il lui dit, va lui demander maintenant ce qu'on doit faire, ce qu'il faudra faire après sa mort. C'est le dernier moment pour poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de pleurer. Là, on voit la différence de réalisation. Ananda est supposé avoir atteint l'état d'arhat, il est libéré, donc lui, il est au-delà de la tristesse. Mais Ananda, le pauvre qui n'est pas encore libéré, lui, il est extrêmement attristé par cette nouvelle. Donc Ananda va voir le Bouddha et lui demande, il lui dit, mais lorsque vous serez mort, qui devront nous suivre? Donc une question extrêmement importante, en disant, est-ce qu'il y aura une sorte de patriarche? On n'imagine pas le Bouddha donnant une nonne la tête de la communauté. Bon, on voudrait bien, mais bon. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il va nommer un des plus anciens moines comme chef de la communauté qui pourrait prendre la direction? Ce qui aurait été une des possibilités dans la tradition bouddhique d'avoir constamment une sorte de responsable de toute la communauté. Mais le Bouddha s'oppose clairement à ceci. Il dit, il n'y aura personne. Il dit, si un moine venait et disait, eh bien voilà, je suis celui qui est responsable de la communauté monastique maintenant que le Bouddha est décédé et qu'il voulait prendre sa place, il dit, celui-ci serait un usurpateur. Donc le Bouddha ne veut que personne prenne sa place. Et lui dit, Dhyananda, soyez un refuge pour vous-même, soyez une île pour vous-même, prenez le Dharma comme refuge, prenez le Dharma comme île. Donc c'est très clair. On a dans ce bouddhisme primitif une sorte de remettre les gens à leurs propres responsabilités constamment. Donc ici, chaque pratiquant, si vous voulez, devra être une île, un refuge pour soi-même. Ici, non pas en tant que refuge ultime, puisqu'il s'agit de prendre refuge en soi-même comme chemin ici. Et lui dit, comment est-ce qu'on est un refuge pour soi-même? Comment est-ce qu'on est une île pour soi-même? Donc ici, il ouvre la pratique qui permet d'atteindre ce non-saisir. Bien là, il décrit simplement la présence attentive. Il dit, comment est-ce qu'on est un refuge, une île pour soi-même? Bien, il dit, voilà, le méditant, quand il marche, il sait je marche, quand il tourne la tête, il sait je tourne la tête. Et il cite exactement, bon, le texte a certainement repris des grandes parties du Satipatthana Sutra, mais voilà de quelle manière on est une île, un refuge pour soi-même. Et d'une certaine manière, c'est assez extraordinaire de dire comment est-ce que finalement on est libre et autonome dans la présence à soi-même. Dans la présence à tout mouvement, à toute activité et à toute expérience intérieure. Donc d'une très grande simplicité. Et cette manière-là, si ça conduit à être réellement une île, un refuge pour soi-même, ça veut dire que ceci conduit à l'absence de saisie. Donc l'absence de saisie est réalisée, si vous voulez, par la pratique de la présence attentive. et rien d'autre. Le Bouddha, dans ce sutra, ne rajoute rien. Il dit, bah, puis il faudrait aussi faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc cette non-saisie, qui est l'essentiel du chemin qui permet d'atteindre la libération, pourrait dire qu'on la retrouve exprimée dans d'autres traditions de manière aussi claire. Et je voudrais juste évoquer ici une, deux autres traditions, enfin une tradition, surtout la tradition des mystiques chrétiens, parce que ça me semble être exprimé aussi de manière sans compromis, si vous voulez. On n'a pas à trouver des excuses en disant, mais on pourrait quand même saisir quelque chose, on va garder une toute petite chose. Donc on trouve ceci exprimé clairement chez les mystiques chrétiens, et clairement surtout chez Maître Eckhart, et d'autres d'ailleurs, mais Maître Eckhart est très clair là-dessus. Il a un très beau sermon qui s'appelle du détachement, enfin qui est traduit en tout cas en français par le traité du détachement. Je vous en dis quelques mots selon mon souvenir, parce que je n'ai pas les textes ici avec moi. Mais il dit que Saint Paul met l'amour au-dessus de toutes les vertus. Il dit parce que l'amour tourne le croyant vers Dieu. Donc il dit l'amour est la vertu la plus belle, la plus forte. Et Maître Eckhart, il dit, eh bien, bien que l'amour soit une grande vertu, etc., moi je place le détachement au-dessus de toute vertu. Donc il a quand même un peu de courage, parce que passer au-dessus de Saint Paul comme ça, en général, c'est... Donc il dit, moi je place le détachement au-dessus de tout. Il dit parce que le détachement oblige Dieu à venir en soi. Donc l'amour tournerait l'adepte vers le croyant vers Dieu, mais le détachement oblige Dieu à venir vers le croyant. Il décrit très bien d'ailleurs le détachement, mais j'ai ici un autre sermon en tête qui s'appelle « Heureux les pauvres d'esprit ». Ces sermons sont, si vous avez l'opportunité de les lire, sont vraiment très clairs dans la non-saisie, avec un langage assez précis, je dois dire. Donc là, on parle des « Heureux les pauvres d'esprit », il parle de la pauvreté, alors il met... C'est très bien de ne rien avoir, etc. Donc une pauvreté physique extérieure, si vous voulez. Enfin, quand même, il trouve que c'est extrêmement limité. Et il dit que la vraie pauvreté, c'est ne rien avoir, ne rien vouloir, ne rien savoir. Il dit aussi donc qu'il faut se défaire, se détacher de la personnalité, de la temporalité et de la multiplicité. Je vous donne quelques citations, comme ça, la connaissance dans laquelle Dieu se connaît intérieurement lui-même, c'est-à-dire en nous-mêmes, dans le croyant lui-même, donc la connaissance dans laquelle Dieu se connaît intérieurement lui-même est la connaissance de tout esprit détaché et non une autre. Je vous cite saint Augustin, il dit « C'est l'avidité de l'âme qui fait qu'elle veut saisir et posséder beaucoup ». Ainsi, elle cherche à s'emparer de la temporalité, de la corporalité et de la multiplicité. Par là, elle perd précisément ce qu'elle possède. Donc, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on n'a pas le terme conscience n'a pas encore été utilisé comme Descartes l'introduira, comme conscience de soi-même, si vous voulez, mais quand, à ce moment-là, c'est le terme d'âme qui est plutôt utilisé. Encore une autre citation de Maître Eckhart, il dit « Lorsque l'âme est libérée du temps et de l'espace, le Père envoie son Fils dans l'âme. » Donc toute réalisation, si vous voulez, de l'ultime. Je la relis, si vous voulez. « Lorsque l'âme est libérée du temps et de l'espace, le Père envoie son Fils dans l'âme. » On trouverait de nombreuses autres citations chez les mystiques chrétiens, et d'ailleurs dans d'autres traditions. Donc on peut se demander, dans le fond, cette non-saisie, qu'est-ce qu'elle va défaire, ou qu'est-ce qui l'empêche, ou qu'est-ce que cette saisie dont il faudrait se défaire. Et nous l'avons déjà vu, évidemment, à nombreuses reprises, elle s'exprime dans notre pratique, dans notre vie quotidienne, d'une manière condensée, dans ce que nous avons appelé le désir, l'aversion et la confusion. C'est exactement cette manière-là dont nous dont nous utilisons le désir, la saisie, dans le désir, l'attachement, l'aversion et la confusion. Donc dans la pratique, on reconnaît ceci dans la mesure de l'ouverture qu'on a à ce qui est là ou non. L'enjeu est vraiment là. Est-ce qu'on peut être simplement avec ce qui surgit? Ou est-ce qu'on est dans une attitude de réaction, soit par attachement, de vouloir saisir, soit par aversion, de vouloir repousser, soit par confusion, je pourrais dire de vouloir emballer, parce que la confusion c'est un peu une manière à ce niveau-là d'enfermer l'expérience dans un concept, et qui fait que cette expérience est vécue comme autre, si vous voulez, et aussi comme elle est solidifiée. C'est exactement ce travail de saisie. Et parfois, dans la méditation, on sent, on pourrait dire saisie, il y a presque une dimension corporelle à cette saisie. On pourrait la sentir dans un mouvement très subtil du corps. Et c'est pour ceci que, d'une certaine manière, la détente est aussi importante dans la méditation. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire lorsque on surprend le désir, l'aversion, la confusion? Qui ici semblent évidemment être les obstacles à la non-saisie et la liberté. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Est-ce qu'il faut leur régler leur compte? Mais il faut bien se rendre compte que désir, aversion et confusion, ce sont des qualités de la conscience. Ce n'est pas des corps étrangers qu'on pourrait rejeter, qu'on pourrait prendre et mettre à l'extérieur. Et dès qu'on a cette attitude-là, à ce moment-là, on s'engage dans un conflit, c'est pas possible. Le désir est une qualité de présence, l'aversion est une qualité de présence, la confusion également. Qualité particulière où on peut dire que le contenu, il y a un rapport au contenu qui est spécifique. Donc il s'agit non pas d'essayer de se battre contre, mais d'en prendre conscience. À nouveau, dans le Satipatthana Sutra, un des textes de base, si vous voulez, ce ne serait pas judicieux de croire que c'est le seul, mais un des textes de base pour la pratique de la méditation, le texte s'exprime très clairement. Elle dit, lorsqu'un méditant, une méditante a l'esprit troublé par le désir, il sait, j'ai l'esprit troublé par le désir. Lorsqu'un méditant, une méditante a l'esprit troublé par l'aversion, elle sait, j'ai l'esprit troublé par l'aversion. De même pour la confusion. Donc maintenant, il sait, elle sait, c'est une formulation un peu étonnante, mais il n'est pas facile de trouver une bonne formulation. Ici, je pense que les traducteurs suivent le texte pali. Ça veut dire donc de prendre conscience que le méditant, la méditante, est pleinement conscient de ce désir, de cette aversion ou de cette confusion. À nouveau, conscience n'est pas juste nommée. Conscient, on pourrait dire, c'est vivre cette dimension de l'expérience, c'est vivre ce désir pour autre chose, ou cet attachement à une expérience particulière, ou cette aversion pour l'expérience présente. Et d'une manière générale, on peut se rendre compte que ceci est fondamental. Le psychanalyste anglais Winnicott disait qu'est-ce que l'intégration dans une personne qui est de la maturité, il disait, c'est la prise de conscience des sensations, des émotions et des sentiments. Lorsque nous ne sommes pas conscients de ceci, nous sommes mus par ceci, et à ce moment-là, nous sommes déchirés, si vous voulez. Non pas que Winnicott ait eu le moins d'intérêt pour la mystique, je ne crois pas du tout que c'était son intérêt, mais il y a une sorte d'intégration, tout d'abord à un niveau même plus simple, et ici à un niveau plus profond. Si ce dont on parle, c'est la vérité de la cessation, donc la liberté, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas de se battre contre ceci, mais vraiment d'en prendre conscience, ressentir qu'est-ce que c'est que cette aversion. Si je prends un exemple, je commence une assise, pour une raison ou une autre, j'ai pas envie, ça peut arriver, pas envie, soit qu'il y a eu beaucoup de douleur dans la précédente et qu'il y a une sorte de résistance à s'engager dans la méditation. Donc ça ne suffit pas à simplement dire je n'ai pas envie, voilà, bon, je n'ai pas envie, j'en ai fait le tour, maintenant je vais essayer de me concentrer sur ma respiration, ou quelle que soit la manière dont on pourrait exprimer ceci. Évidemment, ça ne veut pas du tout dire en prendre conscience, ça ne veut pas dire être présent à ce manque d'envie ou cette aversion ici. Il s'agit de ressentir et d'être pleinement conscient de cette aversion. Au-delà du mot, si vous voulez, le mot, il est là, et il a précisé une sorte de prise de conscience. Mais il n'est pas, le mot aversion ici n'est pas l'aversion, c'est ce qu'on a nommé, mais il y a une attitude d'esprit qui est cette aversion, dont il s'agit de prendre conscience. Et si on prend conscience de cette aversion sans s'identifier, ce qu'il faudrait quand même définir une fois, à ce moment-là, cette aversion n'a aucun pouvoir de contrainte, elle ne nous agit pas. Mais on peut dire, dans un temps peut-être même plus simple, il s'agit de prendre cette aversion et de l'intégrer dans notre pratique. Je n'ai pas envie, une aversion, une certaine résistance, j'en prends conscience. Et que je veux ou non, j'ai déjà commencé à méditer, même si je n'avais pas envie de commencer, puisque la prise de conscience est justement ce qu'est la méditation. Si vous voulez, le processus, il est déjà là. Mais même s'il s'agissait d'une décision, c'est-à-dire j'ai pas envie, alors je pourrais me mettre à rêvasser, à me dire, bon, ben, je vais essayer de m'échapper un petit peu. Donc ça serait être agi par cette aversion. Dans le fond, être le jouet de l'aversion. Ce qui est exactement le contraire de la liberté. Mais je peux très bien prendre conscience de ne pas avoir envie et puis m'ouvrir au processus méditatif avec cette attitude d'aversion, en la respectant. Donc je garde une certaine unité en moi-même, il n'y a pas une sorte de scission, je n'ai pas envie mais je me force. Et si je n'ai pas envie et je me force, il est évident que la méditation est difficile. Il faut mettre beaucoup d'énergie. Dans le fond, pour s'opposer à cette non-envie. Mais si je l'inclus à ce moment-là, une meilleure unité en moi-même, une intégration, si vous voulez. Constamment, il s'agit de prendre conscience des émotions et des réactions par rapport à l'expérience présente et de les intégrer dans la pratique. Ils deviennent ces attitudes par rapport à l'expérience présente, le lieu de la méditation. Je peux prendre un autre exemple assez simple. S'il y a de la somnolence et que j'ai dans mon programme d'être très attentif aux sensations corporelles dans l'abdomen, de les sentir très précisément, bien là je suis aussi dans une sorte de double attitude. Il y a une expérience, une qualité de conscience qui est la somnolence, qui semble s'opposer à mon projet qui était de ressentir les sensations corporelles dans l'abdomen avec beaucoup de clarté. Donc là, il est possible que je fasse des efforts et des efforts, mais que je me rende compte que mon contact n'est pas clair à cause de cette somnolence. À ce moment-là, il s'agira d'inclure la somnolence, de faire de la somnolence le lieu de la méditation. Voilà la qualité de ma conscience méditative. Elle peut être dans l'aversion, dans le désir, ici elle est dans une qualité qui est la somnolence. Et si j'arrive à être présent à cette somnolence sans m'y identifier, simplement découvrir cette qualité de somnolence, qui est la qualité de la conscience à ce moment-là, la somnolence devient un parfait lieu de la méditation, extrêmement enrichissant, parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus le jouet des différents aspects de la conscience. Et c'est exactement la même sensibilité qui est en jeu dans le désir, l'attachement, dans la colère, dans la tristesse. C'est toujours la même position, on pourrait dire, une position d'être conscient, d'être présent sans adhérence, sans identification. Donc à nouveau, lorsqu'il y a de la somnolence ou de la fatigue, ce sont des expériences moins dramatiques et c'est des bons lieux pour explorer la position juste. Ou la bonne disposition. Parfois on lit dans certains manuels, on entend les stratégies pour éviter la somnolence. Dans les textes d'ailleurs, mais qui concernent la concentration, on est dans un contexte différent, mais on donne plein de petits conseils amusants, de pendre des petites boules pleines d'eau aux oreilles, par exemple, ce qui fait que comme ça, on renverse l'eau sur soi. Enfin, il y a plein de voilà. Bon, évidemment, quoi, je vous invite pas, parce qu'on va avoir une salle de méditation un peu compliquée, qui va se transformer en piscine, donc c'est pas le but de l'exercice. Mais là, dans ce cas-là, c'est dans un contexte qui est de la concentration, qui est un enjeu différent. Dans la concentration, c'est la somnolence et autres, et l'agitation sont des obstacles au développement de la concentration. Parce que l'enjeu n'est pas de connaître ce qu'est la somnolence. Dans Vipassana, il s'agit de connaître ce qu'est la somnolence et toutes les qualités de la conscience qui médite. Ou de mettre un sabre devant soi, comme dans la tradition coréenne, par exemple. Ou d'aller au bord d'un précipice. Donc je tiens à mentionner que ce n'est pas du tout ce que je recommande. De toute façon, nous ne sommes pas dans la concentration, mais dans Vipassana. Donc ce qu'il s'agit de nous enrichir de chaque expérience, d'apprendre à trouver la liberté dans chacune de ces expériences. Donc je reviens sur ces notions de connaître et d'être conscient, qu'il s'agit de comprendre différemment. Connaître, c'est une manière d'aller vers quelque chose pour le transformer en une information que l'on peut garder, qui se fait au moyen du nom et du concept, chose extrêmement utile, essentielle la plupart du temps. Et puis l'être conscient, c'est une manière d'être avec l'expérience. Donc on a deux mouvements complètement différents. Le connaître se fait quand on veut comprendre quelque chose, le connaître, on dirige son attention vers. On a cette notion d'un sujet très clairement qui veut connaître quelque chose. Il y a la création de l'espace, si vous voulez. J'ai cité Maître Eckhart avant qui disait se libérer, ou lorsqu'on est libre du temps et de l'espace. Eh bien, lorsqu'il y a ce sujet qui vise un objet, il y a exactement cette notion d'espace, avec une différence. Il y a ici et là quelque chose. Donc c'est le processus de connaissance qui va traduire. On pourrait dire ce qui est perçu dans un concept qu'on peut conserver et transmettre. Dans la présence ou la conscience, c'est un mouvement vertical où nous reposons sur chaque expérience. Et l'attitude est très différente. On se rend compte dans la méditation, lorsqu'on repose sur chaque expérience, il y a à ce moment-là une unité dans l'expérience. Et se reposer sur chaque expérience ouvre justement à cette absence de saisie. Et cette absence d'identification. Donc nous voyons dans la pratique assez simplement comment, avec des notions de douleur par exemple, nous arrêtons le terme douleur dans une zone du corps par exemple, nous arrêtons un concept, on se rend bien compte qu'on peut observer cette douleur, etc. avec une distance clairement marquée. Et lorsqu'on traverse un peu cette image écran de douleur, on peut sentir des sensations. Mais parfois, on crée aussi des images juste sur les sensations. On les codifie, si vous voulez. On pourra même les nommer et autres. Donc, il n'y a pas que des concepts sur la douleur. On peut aussi sur la sensation. Pas nécessairement, d'ailleurs. Mais on se rend compte, quand il y a l'image d'une expérience et qu'on la touche avec une plus grande intimité, on se rend bien compte. Les textes disent quelquefois, c'est comme si on pénétrait dans l'expérience, quand on est avec le concept, on reste à la surface et tout d'un coup, lorsqu'on est présent à l'expérience, on a l'impression qu'on est entré dans l'expérience. Il y a une sorte de vécu qui est manifestement différent. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on va forcer, si vous voulez, pour essayer d'entrer dans l'expérience. Cet effort va nuire à la sensibilité. C'est simplement qu'on ne s'attache pas à l'image de l'expérience, mais qu'on essaie de la sentir. Si c'est une image du corps, ben voilà, il y a cette image, cette zone ou de ces sensations par exemple, et puis tout d'un coup on essaie de les ressentir. On se met dans une écoute plus fine, si vous voulez. Là on ressent cette densité, la présence de ces sensations. Parce qu'évidemment, si on remet des mots dans l'impression constamment, On va s'arrêter à la surface des expériences. Donc tout point d'ancrage a cette possibilité, parce que certaines personnes demandent, est-ce que le point d'ancrage c'est une sorte de zone de parking, si vous voulez, on attend que ça passe pour revenir dans les choses plus compliquées. La zone d'ancrage a toutes les possibilités d'amener cette profondeur de compréhension. Donc il n'y a pas à dire, bon, ben, il ne se passe rien, alors je reste dans la zone d'ancrage. Non, la zone d'ancrage a toute la richesse possible. Une sorte de zone de second ordre. Mais il y a une chose radicale, on pourrait dire, que si on veut avoir cette intimité à l'expérience, être dans l'expérience, si vous voulez, il est impossible d'être dans le rejet de l'expérience, de vouloir la changer, la transformer. Ceci demande une acceptation totale de l'expérience. Parce que s'il y a un rejet, le fait de vouloir la changer, la transformer, ce rejet, ce vouloir transformer et la changer, ne peut s'appuyer que sur cette distance, ne peut s'appuyer que sur la conceptualisation. Lorsqu'il y a, on pénètre dans l'expérience, pour donner certaines images qui sont certainement approximatives, à ce moment-là, lorsqu'il y a l'unité dans l'expérience, changer n'a aucun sens. D'abord, on n'est pas dans la temporalité, donc pour changer, il faut du temps. Changer ne veut rien dire du tout. Ça ne peut pas surgir dans l'esprit à ce moment-là. Je vais citer un sutra qui est un sutra qui décrit bien la méditation, si vous voulez, peut-être de manière encore plus fine que le Satipatthana Sutra qu'on cite la plupart du temps, parce qu'il y a une sorte de petit aspect manuel, comme ceci, avec quatre paragraphes, si vous voulez. Mais ici, c'est une autre sensibilité qui est décrite et que je voudrais bien évoquer, parce qu'elle décrit exactement ce dont nous parlons ici. Dans ce sutra, le Bouddha s'adresse à ses moines. À nouveau, on ne lui pose pas de questions, c'est lui qui a envie de dire quelque chose. Et il commence par donner un contexte. Il parle à ses moines, il dit: moine, tout ce qui dans ce cosmos, avec ses devas, ses maras, ses brahmas, les ascètes, les prêtres, les monarques et les gens ordinaires. Donc il cite ici tous les types d'êtres qu'il y a dans cet univers. Tout ce qui est vu, entendu, senti, goûté, ressenti et pensé, ceci je le connais. Ici, il veut bien marquer qu'il n'a pas de défaillance. Il dit, si je dis que je ne connaissais pas, ça serait une défaillance. C'est important pour lui de mettre ce contexte, donc c'est pas... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas des choses qui lui échapperaient à connaître, si vous voulez. Et quand il cite les devas, les maras, les brahmas, les ascètes, les prêtres, les monarques, pour décrire un petit peu tous les types de perception du monde qu'il pourrait y avoir. Mais il dit, il parle du Tathagata en parlant de lui-même, il dit, mais il connaît ceci, mais le Tathagata ne les saisit pas. Ici, c'est une traduction un peu libre, si vous voulez, il va décrire ce qu'il entend par ceci. Dans la vision, hein, le Tathagata ne crée pas un objet vu ou à voir, ni un sujet voyant. Dans l'audition, le Tathagata ne crée pas un objet à entendre, ni un sujet entendant. Donc il cite pour les cinq sens, on voit bien, il met en question l'objet et le sujet, ou le sujet et l'objet. Donc il ne crée pas ceci. De même dans la pensée, si vous voulez, la nature de l'intellect, si vous voulez, ne crée pas non plus de sujet et d'objet pensé. Donc il ne crée pas cette dualité. Et il conclut, je prends un autre sutra ici, parce que d'exprimer clairement, il conclut en disant, quand dans la vision, il parle ici à un brahman qui s'appelle Baya, il dit, quand dans la vision tu ne seras, dans la vision tu ne seras ni ici ni là, dans l'audition tu ne seras ni ici ni là, ceci est la fin de la souffrance. Donc il dit, dans la vision il n'y a que la vision, dans l'audition il n'y a que l'audition, dans la gustation il n'y a que la gustation, dans l'intellection il n'y a que l'intellection. Il dit, tu ne seras ni ici ni là. Donc il veut dire que dans le fond il est ni perdu dans l'objet, ni dans le sujet. Je vois ceci, donc il n'est pas perdu dedans. Il dit ceci à la fin de la souffrance. Donc ici, on a une autre sensibilité, on n'a pas du tout ce caractère d'observer où il y aurait un observateur observant quelque chose. On a bien cette unicité dans l'expérience, la vision que la vision, l'audition que l'audition, la sensation que la sensation. Et c'est cette sensibilité, dans le fond, que nous mettons en jeu dans notre pratique. En rencontrant, si vous voulez, par étapes, les obstacles, les habitudes, les réticences qu'on peut avoir à toucher les expériences avec cette intimité. Mais lentement, cette sensibilité se développe et puis on peut être dans cette qualité d'expérience. À ce moment-là, il dit, tu ne seras ni ici ni là, il n'y a plus d'identification. Non pas parce qu'elle a été rejetée, parce qu'on s'est battu contre, mais ça vient de l'intimité à l'expérience elle-même, qui ne laisse plus que l'expérience, que l'audition, que la vision, et non plus un sujet qui serait tourné vers un objet. Vous voyez, dans la vision, il n'y a que la vision. C'est quelque chose de l'expérience repose sur elle-même. Dans l'audition, il n'y a que l'audition. L'expérience repose sur elle-même. Si je vois quelque chose, il y a une orientation. Si je dis tu vois ceci, on va tourner le regard vers quelque chose. Ou tu entends, on va tourner l'attention vers un objet, on crée cet espace, cette distinction du sujet de l'objet. Ici, c'est quelque chose de bien différent. Dans la vision, dans l'audition, il n'y a que la vision, que l'audition. Donc une expérience qui repose sur elle-même. Donc ceci pour essayer de décrire la sensibilité que nous essayons de cultiver dans la pratique méditative, même si elle vient par étapes, si vous voulez, parce qu'on a des manières habituelles de saisir les expériences et autres, mais c'est lorsque on met entre parenthèses ces manières, en se rendant compte que ce n'est pas la seule possibilité. Si on croit que la seule possibilité, c'est je vois ceci, évidemment, on ne peut pas découvrir une autre chose. Donc ce sutra, ou les descriptions que je donne ce soir, c'est pour nous ouvrir à une autre possibilité. Le je vois ceci, on ne va jamais l'oublier, il n'y a pas de problème, on ne va pas tout d'un coup dire, mais voilà, je ne sais plus comment voir les choses, il n'y a plus que la vision, plus que l'audition, je suis perdu. Non, je ne crois pas que ce danger soit là. Mais nous essayons de nous ouvrir à une autre possibilité, où tout d'un coup, il est évident que c'est une vision du monde radicalement différente. Mais s'il s'agit de se libérer de la naissance, vieillesse, maladie et mort, il faut quand même quelque chose de radicalement différent. C'est pas en bricolant des trucs un peu la même chose qu'on va arriver à une liberté aussi grande, si elle est possible. Voilà donc quelques remarques. À nouveau, chaque exposé nécessiterait de préciser quelques termes, à nouveau revenir une fois sur la notion d'identification, ce qu'on fera prochainement. Mais voilà donc à nouveau pour essayer de donner le contexte de notre pratique méditative.